Bienvenue à la French Connection, épisode 12.
Bonjour tout le monde. Cette semaine, on est sans Patrick parce qu'il est en train de visiter le Portugal, le chanceux. Nous sommes avec Damien.
Salut tout le monde!
Richer.
Salut!
Vincent.
Hola!
Et moi, cette semaine, Nicolas, l'hôte. Donc, cette semaine, on va commencer avec Richer dans ses nouvelles de MacBook.
Oui, donc dernièrement, il y avait une nouvelle par rapport à une équipe de sécurité, la Herbscan, qui ont fait des tests sur des systèmes de points de vente. Et donc, c'est pour la compagnie SAP, si ça dit quelque chose à quelqu'un. Ce système-là était capable de pouvoir aller attaquer le serveur qui gère les ventes et les petits appareils en tant que tels dans les magasins, simplement pouvoir rentrer des commandes sans authentification ni vérification des commandes qui sont entrées. Donc, en tant que tel, il était capable de pouvoir, avec un Raspberry Pi, faire un genre de proxy, un backdoor, en se connectant dans un port réseau. Tu sais, on le sait, dans les magasins, on regarde ça partout. Souvent, on peut voir un port réseau, on peut simplement se brancher dedans, juste en débranchant. Eux autres, ils avaient débranché une balance, par exemple. Donc, tu peux juste débrancher ça et brancher ton appareil dedans, envoyer une commande particulière au système de points de vente, et il va pouvoir retourner un accès à distance, puis par la suite envoyer des commandes comme enlever le masque sur un numéro de carte de crédit. Donc, parce que par rapport au PCI DSS, c'est interdit de montrer les numéros de carte de crédit sur les coupons de caisse. Et donc, ça, tu peux libérer ça, ce qui fait qu'en bout de ligne, tu peux voir le numéro complet du client. Et encore pire, changer les paiements ou changer les prix des articles. Donc, dans leur exemple qu'ils montraient, ils ont pris par exemple, ils faisaient scanner un MacBook et ils avaient mis le montant à 1$. Donc, ça passait en tant que 1$. C'est sûr que 1$, on s'entend, un MacBook, ça vaut pas 1$. Donc, c'est un petit peu ridicule. À ce point-là, c'est pas aussi, ça peut pas être aussi grave que ça. Mais, tu sais, s'enlever un 20% de rabais, probablement que la personne à la caisse verrait pas, ce genre de choses-là. Donc, t'es capable de pouvoir avoir des choses que tu peux t'acheter, beaucoup moins cher ou faire d'autres transactions, des choses comme ça. Donc, ça peut être assez grave. Depuis la présentation, il y avait la compagnie en tant que telle a corrigé le problème, mais ça ne veut pas dire que dans d'autres systèmes de points de vente, il n'y aurait pas ce genre de problème-là aussi. Donc, c'est assez, ça peut être assez épeurant là, pour ce qui est des vendeurs.
Ben, c'est comme ce qu'on voyait il y a bien des années, de la manipulation des shopping carts dans le commerce électronique. Maintenant, il est rendu dans le monde réel. C'est tout à fait intéressant et fascinant.
Oui, exactement. Donc, c'est oui, avec les shopping carts, je me souviens, il y avait certains sites que c'était possible de faire moins un, que finalement tu faisais débiter de l'argent, tu faisais rajouter de l'argent sur ta carte de crédit au lieu de t'en faire charger. Donc, ça peut être spécial. Donc, dans ce cas-là, je sais pas, c'est peut-être possible aussi. Là, donc, c'est assez. Si tu mets moins 1 500 $ sur le montant, peut-être que ça paraît pas, mais tu viens de te faire donner 1 500 $ sur ta carte de crédit. Donc, les possibilités sont assez loin avec ça. Mais étant donné qu'il n'y a pas de vérification, plusieurs choses comme ça ça peut être possible.
Ce qui fait peur, c'est tout cet argent qui disparaît, qui est stocké, qui disparaît. Ce qui fait peur, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre argent, à tout moment, peut passer de poche en poche, de main en main, dans les mains de pirates, par exemple, et que les banques ne peuvent strictement rien faire. Il y a un moment, il faudra qu'on se pose des questions, quand même.
De façon très importante, effectivement, la monnaie est rendue d'un niveau virtuel qui n'a plus de sens, où ce n'est que des deux chiffres dans une colonne d'un chiffrier Excel qui a une valeur légale en termes de monnaie. C'est complètement fou, là.
Oui, en effet. Donc, on peut pas voir ça à moins de voir un œil scrutateur très, très, très proche. Et donc, c'est ce genre de choses qui peuvent faire peur, effectivement, parce qu'à la vitesse que ça peut aller, des fraudes peuvent arriver très rapidement.
Maintenant, on va passer à Damien, qui démarre un nouveau service avec Zataz.
Ouais, mais j'ai eu l'idée, mais alors, je suis pas le premier parce qu'il y en a un peu partout, hein, mais je me suis dit, On parle beaucoup de fuite de données, de bases de données, en tout cas de détournement par des pirates, des malveillants, hein, des informations qu'on peut laisser sur les sites internet. Et donc je me suis dit, tiens, avec Zataz, hein, ça a plus de 20 ans, je me suis dit, pourquoi ne pas aider les particuliers à savoir si leurs données sont pas déjà dans les mains de malveillants? Parce que malheureusement, on se rend compte que, oh là là, on nous annonce le piratage de Yahoo, de LinkedIn ou de je ne sais trop qui, sauf que c'est des piratages qui datent d'il y a 3-4 ans et que ben les gens qui sont piégés par ce genre d'attaque le savent malheureusement, il est beaucoup trop tard. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, je vais lancer un service avec Zataz. Et donc pour les particuliers, gratuitement, je leur propose, eh bien voilà, vous me fournissez votre mail et nous, on cherche perpétuellement à savoir si vos données sont pas volées. Et donc là, pendant une petite semaine, j'ai fait un test avec 100 personnes. Donc j'ai 100 personnes qui m'ont laissé leur courrier électronique à surveiller. Et les chiffres, je vous le cache pas, hein, moi-même, je m'attendais pas à de tels chiffres. Sur 100 personnes, 86 étaient dans le black market, dans le dark web, en tout cas dans des bases de données piratées, diffusées, revendues. 27 donc de ces personnes sur les 86 n'avaient jamais changé leur mot de passe, ils étaient même pas au courant. Et deux avaient des données tellement sensibles qu'il y en a même un qui a été obligé de déposer plainte parce qu'aujourd'hui, sa vie numérique est clairement en danger. Donc on se rend compte que si les entreprises, et encore, on peut mettre des parenthèses, hein, commencent véritablement à s'intéresser à leur sécurité informatique parce qu'elles se rendent compte qu'elles peuvent perdre de l'argent, on se rend compte que les particuliers ne sont pas du tout, mais alors pas du tout au fait que leurs données sont peut-être dans des mains malveillantes depuis des semaines, voire des mois, voire malheureusement dans certains cas des années, et que tout ça peut être utilisé pour usurpation, vol, détournement, etc., etc. Et là, franchement, moi, je m'y attendais pas. Hein, et je me suis dit que ce service, bah, malheureusement, risque d'être très utile.
C'est, bah, soit c'est très, c'est bien et pas bien. Là, c'est sûr que le service va servir à bien des gens. Mais on est dans un univers où maintenant, je pense que le commun des mortels n'a aucune idée dans qu'est-ce qu'on fait. C'est très difficile de calculer notre valeur numérique, qu'est-ce que nos informations circulent, dans quelle mesure ça circule. Même en sécurité physique, les gens ont pris énormément de temps avant d'intégrer un certain nombre de concepts de base. Là, on tombe dans du virtuel où on n'a aucune valeur tangible ou aucune vision tangible de ce qui s'en va. Et on s'en va se faire voler à peu près n'importe quoi, n'importe où.
Et là, justement, c'est intéressant ce que tu dis, hein, c'est que dans les deux cas très sensibles, il y en a un qui, pourtant, je suis pas né de la dernière pluie, hein, ça fait quelques années, ça fait même plus de 25 ans que je traite de la sécurité informatique. Bah, dans l'une de ces deux données, il y a une personne qui a retrouvé sa carte d'identité et qui se retrouvait sur un site d'usurpation et elle coûtait, pour les personnes qui souhaitaient l'acheter, simplement 17 euros. Donc ça fait, si je me trompe pas, une trentaine de dollars canadiens. Voilà, toute sa vie numérique, en tout cas, qui avait été volée, dont sa carte d'identité, eh bien, à peine moins de 20 euros. C'est plutôt inquiétant.
Mais c'est facile d'être négligent dans le numérique quand on n'a aucune connaissance de comment ça fonctionne, de pas faire confiance aux gens, ou toutes nos habitudes dans le monde réel se répliquent un peu moins bien dans le virtuel. Et les méchants vont profiter de cette naïveté-là pour frauder encore plus les gens.
Alors pour les personnes qui nous écoutent, hein, il y a des possibilités de s'en défendre. Alors malheureusement, si c'est volé, on n'a plus grand-chose à faire. Hein, mais il y a de plus en plus d'entreprises qui demandent le scan de nos pièces d'identité, hein, de notre carte d'identité, etc. Moi, ce que je conseille, c'est d'effacer un chiffre ou alors carrément de mettre en filigrane à qui on a fait le scan. Parce que si jamais eux se font pirater et voler les données, eh bien, vous aurez au moins une piste de savoir où est partie l'information qui se retrouve aujourd'hui dans les mains des méchants. Hein.
Mais le filigrane est effectivement une stratégie très intéressante dans le contexte où moi je suis un peu plus moins familier avec la loi canadienne, mais la loi française qui va devoir déclarer les différents éléments de piratage, que ça va avoir un effet intéressant.
C'est ça, ça va être la RGPD, on en a parlé dans le dernier numéro, hein, le règlement sur les données et la protection des données. Voilà, moi je vous le conseille, vous prenez un logiciel GIMS par exemple, ou Photoshop, etc., peu importe, et dessus vous mettez à qui vous avez fait le scan. Au moins si cette entreprise s'est fait pirater, parce qu'on le sait très bien, la sécurité à 100% n'existe pas, ça prouvera d'abord que elle a pas fait correctement son travail de sécuriser vos données, et vous, eh bien, vous allez être au courant de savoir où ça a fuité, et comme vous avez effacé 2-3 éléments qui pourrait être véritablement sensible, vous vous êtes, entre guillemets, un peu plus protégé parce que malheureusement, toutes les entreprises réclament, veulent des informations et en bouffent de l'information au point qu'elles sont plus capables de toutes les protéger correctement.
Mais d'un point de vue français, pour moi qui est un peu connaissant de ce côté-là, est-ce qu'il y a des recours de façon, quand la loi va arriver, tout ça, comme pour le simple citoyen, de se faire prévaloir ou se faire compenser ou des... dédommager pour les problèmes qui vont être liés avec le fait d'une fuite non contrôlée?
Alors, il faut savoir que nous, en France, on a une énorme chance. On a la Commission nationale informatique et des libertés, la CNIL. Déjà, on peut se plaindre chez elle. Et il faut savoir que depuis quelques mois maintenant, elle peut carrément mettre une amende aux entreprises qui ont fuité, qui surtout n'ont pas mis en place avant, pendant et après la fuite, des moyens de sécurisation. Et à partir de mai 2018, cette fameuse RGPD, ce nouveau règlement sur la protection des données, là, va carrément... aller punir les entreprises qui font pas attention, qui n'ont pas fait attention. Ça pourra aller jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires, jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, et surtout, enfin, communiquer aux personnes touchées par cette fuite de données. Donc moi, par exemple, touché par une boutique en ligne qui a été piratée, elle sera obligée d'avertir les gens. Parce qu'il est là le nerf de la guerre, c'est que c'est bien beau de se cacher. Ok, le piratage, on sait que ça existe. La protection et les erreurs, ça existe. Mais aussi, le fait d'avoir tout mis en place, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi prévenir les gens qui sont concernés, parce que si c'est pour découvrir dans 2-3 ans que je me retrouve dans les mains d'Ukrainiens ou de Canadiens ou de Français malveillants, il est trop tard. Donc ça, voilà. Là, en France, en tout cas, cette nouvelle mise en place devrait en tout cas rassurer. Maintenant, est-ce qu'elle va être efficace? Ça, c'est une autre question.
Mais c'est terrible, des Canadiens malveillants quand même. c'est les pires de la gang.
Moi, il faut savoir que le Canadien malveillant, il me met un plat de poutine, je donne mes infos. Il les a tout de suite.
Ah, c'est une stratégie comme une autre. Mais c'était fait très intéressant de voir à quelle mesure ça va être utilisé aussi à l'avenir, ce genre de choses-là. Je sais qu'un point de vue canadien, parce qu'on a une histoire un peu plus proche des États-Unis, c'est-à-dire qu'on va faire des poursuites au niveau civil pour aller récupérer de l'argent. Mais on n'a pas de structure peut-être aussi formelle ou aussi structurée pour aller se faire dédommager, autre que le fait d'avoir la honte publique d'une compagnie ou le fait de la harceler publiquement.
C'est pour ça que ça c'est intéressant. Je vais venir sur ma deuxième info justement. En jonglant avec ces fuites de données, c'est que là, depuis quelques jours, on reçoit des mails. J'ai reçu le mail moi-même au bureau où quelqu'un de bienveillant qui se dit roumain m'explique qu'il m'a vu sur un site pornographique en train de jouer avec mon petit oiseau. Bien sûr, c'est pas vrai. Ne cherchez pas la vidéo que le mec annonce avoir filmée. Déjà, j'ai pas de caméra sur mon ordinateur, donc c'est pas gagné. Mais ça montre surtout que cette personne a peut-être eu en main des bases de données de sites piratés. Alors là, par exemple, de sites pornographiques. Bien sûr, j'ai pas laissé mes données sur ce genre de site, donc ça pouvait pas être moi, mais imaginez des gens qui vont sur des boutiques, qui vont sur un site étatique, sur un site pornographique, pourquoi pas. Et donc du coup, si en plus il y a une fuite et que l'entreprise n'a pas prévenu, eux, les pirates, ont très vite compris qu'avec le big data, ils vont pouvoir regrouper. Et là, peut-être que ce pirate s'est dit, tiens, Damien, je l'ai vu sur un site pornographique et je vais le menacer par un mail en disant qu'il m'avait filmé et qu'il allait en parler à toute ma famille. Le mec réclame quand même $300. Donc voilà, les fuites de données, ça peut aussi se finir par ce genre de malveillance, d'escroquerie. Et j'ai des gens qui me l'ont dit très clairement, on a payé parce qu'on a eu peur. Et je leur ai dit, mais vous êtes allé sur des sites pornographiques, vous êtes touché le petit oiseau. J'ai des adolescents qui ont été honnêtes en disant, on a eu peur. Donc voilà, attention, les fuites de données. Plus que la fuite, il peut y avoir énormément de choses derrière, comme ce genre de malveillance, d'escroquerie. Et les entreprises qui se font avoir, je considère encore plus criminelles qu'elles ne préviennent pas leurs clients, parce que le client derrière, lui, peut se retrouver avec des choses encore plus monstrueuses.
Ben souvent, le client en question il est mal outillé face à ce genre de choses-là, surtout s'il ne dispose pas de l'information qu'il doit le protéger. Mais en même temps, l'histoire de petit oiseau est sur la base qu'on voit souvent des courriels passer sur des sites connus, puis en espérant que sur le lot qui tire, ils vont réussir à frapper quelqu'un qui est effectivement allé sur un site de pornographie sans que l'ensemble de ce qui est envoyé est effectivement des gens qui ont consommé, même si beaucoup de l'Internet est basé là-dessus.
Alors, je préviens tout de suite, mesdames et messieurs, si jamais on vous propose une vidéo de moi avec mon petit oiseau, abandonnez, parce qu'il est tellement petit qu'on le verra pas à la caméra.
On était écrasé de rire ici, ça a été un silence malaise.
Désolé, c'est comme ça, c'est la vie de la nature. Et je finirai dans mes actus, justement, en parlant de fuite des bases de données. Là, depuis quelques jours, on a aussi une énorme vague de phishing, d'hameçonnage, de filoutage aux couleurs d'Amazon France. Alors, jusqu'ici, on pourrait se dire, oui, c'est un grand classique. Il y en a des centaines par semaine de ce genre d'attaque, de cyberattaque. Sauf que cette dernière est plutôt intéressante parce que le pirate, en tout cas, l'a réfléchi clairement, hein, correctement. D'abord, ce qui est très étonnant, c'est que j'ai énormément de gens qui m'ont contacté, eux-mêmes clients chez Amazon. Alors là, bon, c'est pas bien compliqué, hein, les bases de données, de fuite de données, de mails expliquant que tel client va acheter aussi chez Amazon, il n'est pas compliqué de les regrouper. Non, mais là, ce qui était très fort, c'est qu'il a aussi créé lui-même un site en HTTPS. Et j'ai des lecteurs qui m'ont dit, ben nous, on s'est fait avoir parce qu'on a vu le S comme sécurisé et on a eu confiance. On s'est dit, mais voilà, c'est un site de confiance, sauf que le pirate était malin. On sait très bien qu'aujourd'hui, mettre un HTTPS, ça coûte pas des centaines de dollars. Donc du coup, il a réussi à piéger des gens. Donc pour éviter de se faire avoir, c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure, hein, les bases de données peuvent être volées, elles peuvent être revendues, redistribuées chez les pirates. Mais n'oubliez pas que maintenant, il y a de plus en plus de sites qui proposent d'utiliser la double authentification. Donc ça veut dire que si jamais même on vous volait par je ne sais quel moyen vos identifiants de connexion, sans la double authentification, le pirate restera à la porte. Pensez-y.
Ben, entre autres, mais ça, c'est un peu aussi notre faute d'avoir longtemps milité sur le fait que HTTPS était la meilleure option, c'est sécuritaire. Les banques ont énormément mis d'énergie dans la communication pour expliquer à leurs clients que ne pas utiliser des communications qui sont pas HTTPS, mais maintenant, tout le monde peut utiliser HTTPS pas parce que ton canal de communication est sécurisé, que le contenu est nécessairement sécuritaire.
Donc voilà, donc regardez dans tous les cas toujours bien l'URL, hein, l'adresse internet qui est proposée. Donc si c'est marqué petit oiseau point amazon point 12345 point ca ou fr ou point com, vous doutez bien que c'est pas Amazon ou un autre site. Donc vérifiez bien ça. Et surtout ne vous dites pas que parce que c'est marqué HTTPS que le site est malheureusement 100% sûr. N'oubliez pas que le HTTPS ne veut simplement dire qu'une seule chose, c'est sécurisé, chiffré entre le serveur que vous contactez et vous. Mais peut-être que le serveur en face est malveillant.
Bien sûr, mais en même temps que les nouveaux noms de domaine avec un unicode, ça crée un certain problème parce qu'on est capable de voir une chose marquée Amazon, visuellement comme étant marqué Amazon, mais qui dans les faits, c'est pas vraiment Amazon qui est marqué.
Allez, ben, je vais finir mes actualités. Moi, celles qui m'ont marqué eh bien, ces derniers jours, c'est l'annonce de Microsoft qui annonce une énorme, enfin en tout cas sa grosse mise à jour pour son Windows 10. Hein. Alors, il a annoncé ça pour le 17 octobre. Et bon, il parle de nouvelles options de sécurité. Mais moi, il y a deux choses qui m'ont marqué. C'est que d'abord, il y aura cette fameuse option pour la réalité augmentée, hein, le virtuel. Et surtout aussi qu'il va être possible maintenant de contrôler Windows 10 à l'œil, avec les yeux. Donc avec leur Inclusive by Design, hein, et à partir des yeux, je vais pouvoir contrôler mon ordinateur. Alors ils appellent ça le Full Quarters Update. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont expliqué que ça allait pouvoir servir, et ça, je trouve ça génialissime, hein, je vais être très clair avec vous. Par exemple, pour les gens qui ont la maladie de Charcot, ou les personnes qui peuvent pas du tout écrire, ou qui sont dans une incapacité, eh bien, ils vont enfin rentrer, qu'on le veuille ou non, dans le numérique, comme vous et moi. Et ça, je trouvais ça particulièrement exceptionnel. Après tout, c'est la solidarité, c'est le numérique, c'est la communauté. Et je me dis que la technologie permet de le faire. Alors après, on pourra toujours se reposer des questions, à savoir est-ce que les gens seront perpétuellement filmés, etc., etc. Mais ça montre qu'une technologie militaire, parce qu'on sait que les militaires ont ça dans leurs avions, eh bien qu'aujourd'hui, ça va rentrer dans nos bureaux, dans nos maisons, en tout cas pour ceux qui en auront besoin. Et je trouvais ça intéressant de mettre ça en avant et de se dire que l'évolution informatique va aussi aider les gens qui peuvent être exclus de la société parce que ils n'ont pas la capacité physique, par exemple, de pouvoir l'utiliser.
Oui, donc avec ça comme c'est là, ça va être intéressant de voir comment ça peut aider justement les gens qui ont une incapacité ou un handicap. Mais en même temps, moi la première chose que j'ai pensé, c'est comment on va voir ça être exploité ou être utilisé à mauvais escient. Donc c'est sûr que c'est par défaut ça devient la première chose que je pense. Donc c'est de voir, ça fait peut-être trop longtemps que je travaille là-dedans. Donc ça, c'est une autre chose. Mais oui, donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce que ça va donner.
Ah bah, de toute façon, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Dès que la technologie sera à portée, on va tous regarder un petit peu comment ça va fonctionner. Et je vais vous faire rire. La première personne à la maison qui m'en a parlé, c'est ma fille. Elle a 16 ans. Elle m'a dit, mais on va pouvoir le hacker en louchant.
Oui, peut-être. Donc, il va voir qu'il y a deux personnes dans la pièce, mais en réalité, on fait juste loucher, donc c'est possible.
Donc voilà, je trouvais ça intéressant, donc à suivre.
Excellent.
C'est effectivement très intéressant, puis mettons que ta fille est très éveillée sur ce genre de choses-là, ce qui est très intéressant.
Elle est très éveillée. Pour vous dire, cette année, elle vient avec moi au Hackfest de Québec. Alors, je vous préviens, messieurs, elle aura 17 ans. J'entraîne des chiens parce que je viens avec des chiens aussi. Donc, il y aura obligatoirement un espace de 20 mètres autour de ma fille. Sinon, pour le reste, pas de problème.
Non, on va être très respectueux, c'est pas de problème. Mais ça va être très intéressant de l'avoir, voir cet environnement-là aussi. Puis c'est très intéressant parce qu'on est tous un peu, je sais pas, comme parents. On inclut nos enfants un peu dans cette réflexion-là de sécurité et de comment on brise les systèmes.
Ben, c'est ça qui est chouette. Hein. J'ai beaucoup de parents qui disent « Oh là là, moi, j'y connais rien, mes enfants savent. » Non, je dis non, intéressez-vous. Et ce qui est bien, c'est que je pense que c'est pareil pour vous, hein, pour en tout cas pour ceux qui ont des enfants, c'est que on les inclut dans cet environnement de la sécurité informatique, de l'identité, de la réputation. Et moi, je suis assez fier, c'est que j'en ai deux, hein, j'ai deux filles. Elles en parlent à leurs copines, elles échangent entre elles. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est avec leur vocabulaire, leur façon de vivre, etc. Et que donc, du coup, tout doucement, ça se répand et qu'elles comprennent, elles font comprendre à leurs copines, qui elles-mêmes en parlent ensuite entre elles, avec les parents. Et je me dis que c'est aussi ça, ce moyen de se sécuriser. C'est de partager, c'est d'être solidaire, c'est d'être ensemble. Ce n'est pas qu'un clavier et qu'un écran.
Tout à fait, je partage ça. Je fais la même chose avec mes enfants. Puis moi aussi, j'ai deux filles d'ailleurs et un garçon par alliance, mais je leur transmets cette espèce d'information-là qui nous permet d'être, eux, déjà là-bas, sont plus outillés que les autres et qui, j'ose espérer, que le font comme tes filles, de partager ça avec leurs amis à ce moment-là. Et ce qui va aussi avec le fait que mentionnais que tu faisais des événements dans les au niveau scolaire pour sensibiliser les gens et ultimement les parents aussi, ce qui est un élément très important dans notre, je pense, dans notre mission de rendre ça plus accessible à tout le monde.
Ah mais clairement, hein, déjà j'adore ça parce que faire des conférences ou des ateliers dans les écoles, que ce soit pour les gamins, les enfants ou pour les parents, déjà il y a un partage, il y a un échange. C'est toujours intéressant de voir les parents ouvrir des énormes yeux sur des problèmes qui sont très facilement corrigeables, très facilement mis en place à la maison en disant « mais pourquoi t'as fait ça ?» ou « regarde comment mieux agir avec tes mails ». Mais j'ai aussi, alors je sais pas si c'est pareil par chez vous, mais des cas de plus en plus dramatiques. J'ai par exemple de plus en plus de jeunes filles ou de jeunes garçons qui se font des selfies sexy, voire sexuelles, et qui se les partagent en se disant « Oh, mais c'est entre mes amis, il n'y a pas de problème ». Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur l'image, sur la représentation de la personne dans le numérique. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'impression d'être dans un clip de rap et que s'ils se le diffusent sur Instagram, ils se disent que personne d'autre va le récupérer. Donc voilà, je trouve que ces rendez-vous sont indispensables et plus on peut en faire et mieux c'est, parce qu'il faut vraiment que ça soit fait sous forme de discussion, à la cool, vraiment sympa. Moi, je suis un geek, hein, je joue énormément. Ça permet déjà de rentrer dans des conversations avec des adolescents qui, eux, vivent avec le numérique nuit et jour, quoi.
Entièrement d'accord. C'est sûr que l'impression, puis même comme adulte, on a encore l'impression. Il y a beaucoup d'adultes qui m'ont partagé sur Facebook comme si c'était dans leur salon. Donc, la frontière entre le fait qu'on est chez soi et on est chez soi avec Facebook, c'est pas exactement la même notion. Facebook est finalement comme être dans un endroit public où on diffuse publiquement nos informations sur Snapchat, Musical.ly ou, tu sais, j'ai quand même des jeunes enfants, en tout cas des jeunes enfants, des jeunes filles qui sont assez au fait de ce que leurs amis font, ce qu'ils découvrent et vont s'exposer à des situations qui sont, mettons, plus complexes par rapport à ce que mon enfance a été. Donc, ils doivent jongler avec ce genre de choses-là. Puis, effectivement, la plupart des parents sont largement démunis face à ce genre de choses-là, ne comprennent pas. Mais en même temps, je trouve ça déplorable que les parents ne prennent pas le temps d'aller voir comment fonctionne Snapchat, d'aller voir comment fonctionne Musical.ly ou fonctionne Facebook. Ou peu importe ce que les enfants utilisent, puisque d'ailleurs, les enfants, moi, les miennes, ne s'intéressent plus à Facebook parce que c'est fait pour les vieux, Facebook. Ça fait que c'est même plus intéressant. Donc, d'aller voir, de s'intéresser, à juste s'intéresser à la base de ce qu'ils font.
Oui, c'est intéressant, mais tu as complètement raison. Hein. Rien, on prend justement Instagram, là qui s'est fait voler, on présume en tout cas plus de 6 millions de comptes. La faille était connue par beaucoup de monde depuis très longtemps. Quand on voit certains clichés qui sont diffusés par les adolescents, par exemple, ou aussi par des adultes, il y a un moment, il faut se poser des questions. Il faut arrêter de penser que parce qu'un site internet ou un service ou une application vous dit « ayez confiance, c'est effacé », qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est, s'il y a quelque chose qui va pas vous rassurer, c'est que si jamais les pirates ont un petit accès, quel qu'il soit, ils vont se servir. Et on en parlait dans le dernier numéro, hein, on parlait des fappening. Là, on parle beaucoup de Justin Bieber et compagnie qui se retrouvent à poil sur Internet. Mais dites-vous que si c'est vous qui êtes à poil, on peut aussi vous vendre. Vos photos peuvent aussi se vendre. Ça, je vous invite à réécouter l'émission, l'avant-dernière émission. Voilà, vous allez très vite comprendre que c'est pas parce que vous n'appelez pas Justin Bieber que vos photos de vous tout nu n'intéresseront personne.
Ah, mais c'est un marché qui est complètement fou, là. C'est insane. Puis je pense qu'avant de continuer de déprimer davantage que ça, on va faire une fermeture de l'émission parce que sinon on va s'enliser dans des choses un peu plus déprimantes pour les gens. Donc, de mon côté, j'ai pas nécessairement de shameless plug à faire cette semaine. Patrick m'a rien communiqué à faire, sauf que le Hackfest en arrive en octobre, en novembre. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Je crois que le Call of Duty est fermé ou est sur le bord d'eux. C'est fait que si vous avez quelque chose à proposer, proposez-le. C'est à peu près ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter?
Ben, écoute, je pense que pour ce numéro 12, moi, j'ai suffisamment parlé, hein.
Mais c'est toujours très apprécié.
Non, puis on a une petite pensée pour Patrick, hein. On l'imagine sur la plage, les doigts de pied écartés, sa petite femme à côté de lui en train de boire une petite boisson fraîche, et lui se faire disputer parce qu'il touche son téléphone. Patrick, on est de tout cœur avec toi.
Bon, sur ça, fait qu'on conclut. Bonne semaine, messieurs.
Bonne semaine.
Bonne semaine.
La France vous fait des bisous.
Au revoir.